L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Lundi 21 mars 2023, au Gazette Café à Montpellier, rue Leva, se déroule la quatrième édition de notre Gazette Africa sur le thème « Les jeunes entrepreneurs africains à Montpellier ». Sur le plateau, Jérémy Zéry, animateur de la table ronde, Johannes Adedemi, Mohamed Ahmed Mahmoud et Giscard da Silva, Marie-Claude Siakezak et moi-même, Kylaine Dubois. Cette deuxième partie rassemble l'idée de la création, son financement et la place de l'entourage.
Donc, voilà un peu pour les difficultés qu'ils ont rencontrées tous les trois. Comment leur est venue l'idée? D'où est venue cette idée d'abord de création de vos applications, de vos entreprises? Et comment cela a cheminé jusqu'à aujourd'hui pour devenir réalité?
Écoutez, comme je l'ai peut-être dit brièvement tout à l'heure, mais moi, c'est l'application CollieJet. Son but était vraiment de pallier à un problème. Alors moi, j'ai maintenant la nationalité française, mais je l'ai eu même très tôt, mais mon père, lui, est toujours guinéen. Et en fait, je pense que tout le monde ici connaît le problème. Hein, au moment du renouvellement du titre de séjour, il faut un acte de naissance de moins de 3 mois qui vient donc du pays. Et l'acte de naissance, c'est une simple feuille A4. Faire venir cette feuille A4 est une source de stress, mais pas possible. Parce que s'il arrive trop tard, il faut recommencer l'opération parce que l'administration va le refuser. Il est périmé pour eux. Donc, pour pallier à ce problème, il fallait avoir une solution qui permette de faire venir rapidement, qu'on puisse leur envoyer les choses et qu'on puisse les envoyer de manière sécurisée, rapide et évidemment peu chère. Parce que c'est possible aujourd'hui avec DHL, mais je vous invite à tenter l'expérience. Vous verrez ce qu'ils vont vous demander. Donc c'était vraiment le leitmotiv, c'était de permettre à la diaspora de pouvoir envoyer ou recevoir des colis partout à travers le monde. C'est l'objectif final. Mais aujourd'hui, c'était vraiment ça, et aussi, non seulement pour nous de pouvoir envoyer et recevoir, mais aussi, par exemple, ma mère, qui était couturière, avait une clientèle qui était dans son quartier, en plus, seulement à l'époque. Mais aujourd'hui, avec CollieJet, il sera possible, dans un futur, j'espère, très proche, il sera possible pour une couturière en Afrique de pouvoir nous vendre à nous directement. Parce qu'elle va fabriquer là-bas. Avec une personne qui rentre du pays et qui fait un CollieJet, il le remet, elle arrive ici, et puis on a le vêtement authentique de chez nous, fabriqué par quelqu'un de chez nous, à un tarif qui sera bien plus intéressant. Ça ne viendra pas de Chine ou de je ne sais où.
Ouais, moi j'ai pas grand chose à ajouter parce que j'ai déjà fait un peu l'historique, un peu le storytelling de mon idée à moi. C'est parti d'une expérience personnelle, comme je l'ai dit, et cette expérience personnelle, j'ai voulu le transformer suite à un déclic que j'ai eu à cette phrase là. Et concrètement, aujourd'hui, On a lancé, d'ailleurs je vais vous partager tout à l'heure les flyers pour télécharger l'application pour les plus curieux. Peut-être même vous faire écouter quelque chose parce qu'il y a beaucoup de questions sans doute de personnes qui vont se dire mais comment ça se fait? Comment on met des coups de maths en musique ou des coups de temps ou temps? Moi je vais vous faire écouter peut-être un truc ou deux et vous allez mieux vous projeter sans doute. Donc c'est juste ce que je voulais dire. Merci.
Comment t'es venu l'idée? Et comment ça a cheminé jusqu'à la réalisation de ton magasin? Comment c'est passé?
Pour mon magasin?
Ouais. D'où est venue l'idée d'abord? De réparer les vélos.
Pour réparer les vélos.
Et pourquoi?
Ouais. Parce que j'aime bien les vélos.
Ça c'est clair.
Je viens du Soudan, je viens dans un petit village. Ouais. Et là, l'école, c'est très loin. C'est presque 1h30. Et toujours je prends ma soeur qui s'appelle Inas. Ils apprennent derrière moi et avec moi au vélo. Et là-bas, on n'a pas le gotrin et c'est tout un terrain. Et j'apprends ma soeur derrière moi toujours. Il fait très chaud. J'ai fait aller hauteur et le vélo n'a pas de vitesse. C'est rien que une seule vitesse. Voilà. Et du coup, comme je suis arrivé ici, et j'ai croisé Motte. Hein, et Motte aussi, comme moi, elle aime bien le vélo. Et ça m'a fermé trop. J'étais venu voir la Figale. Elle était dans une station qui occupe de vélo ici, les responsabilités. Et je suis contenu là-bas un peu. Et j'ai payé 10 euros par 6 mois, je pense. Je fais la réparation de mon vélo. Et j'aimerais bien aider les autres aussi, les gens qui arrivent. Et, là, bah, et voilà, ils sont partis, c'est elle qui m'envoie la formation. Et ça va continuer comme ça. Et j'aime bien mes métiers là maintenant.
Bon. Oui. À toi, merci Mohamed.
Et aussi, l'autre question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai envie d'aller au salariat et après rebondir en entrepreneuriat? Et pour moi, c'était non. C'était non simplement parce que j'aime pas être dans une zone de confort. C'est naturel. Et j'aime pas être dans une zone de confort et je savais en fait que j'allais m'enfler en me lançant sur cette voie-là. Et la seule question que je me suis posée, comme je le disais, en fait, c'est comment j'en arrive à la finalité du projet que j'avais. Donc, au niveau difficulté, je dirais, ça a pris quoi ? Un an et demi pour avoir un titre de séjour. Donc, autant vous dire qu'au début, j'ai lancé la boîte sans pour autant vraiment être créé. Donc, finalement, j'ai dû travailler mon idée au Black pendant plus de 6 mois et demi avant de pouvoir obtenir un récépissé et ainsi de suite. Mais est-ce que je ferai un comparatif par rapport à d'autres pays, je n'en ai pas de référentiel pour le faire, mais je sais que la France quand même fait partie des pays où administrativement c'est plus chiant, je pense. C'est vraiment plus chiant en France qu'ailleurs. Après, il faut le savoir surtout, et s'y préparer psychologiquement pour se dire ok, ben je vais quand même me lancer parce que Le truc aussi, quand vous demandez un statut d'entrepreneur, c'est que ça vous empêche de travailler. C'est ça le truc. Donc, c'est pour ça, en fait, je me suis dit, mais finalement, tu te lances en entrepreneuriat, tu dois amener de l'argent dans ton entreprise. Tu n'as pas encore de salaire au début, ça c'est sûr. Donc, comment tu te nourris? Donc, c'est là, en fait, moi, j'ai dû bosser vraiment beaucoup en amont avant de me lancer. Pour me faire le masse d'économies possible avant de pouvoir me dire ok, ben là je me lance en entrepreneuriat. Sinon, en fait, je me serais lancé, je n'aurais pas eu un rang et je n'aurais même pas la possibilité de travailler parce qu'avec le statut d'entrepreneur, on n'a même pas cette capacité de travailler. Donc, c'est vraiment la peine, elle est double.
Quand on est étudiant, moi, à notre époque, sur le plan purement administratif. Je me souviens qu'à Marseille, j'avais eu un petit job de 15 jours à l'époque. Et mon PDG, M. Torgeman, m'a dit « Tu veux un CDI ?» Je me suis dit « Mais c'est quoi un CDI ?» On était fin 80, je ne savais pas trop ce que c'était. Il m'a dit « Bon, tu signes là, tu vas lire après. » Bon, du coup, c'était une bonne solution pour moi parce que j'étais obligé de travailler chaque été. Aller faire les vendanges, aller ramasser les tomates. Et là, tout d'un coup, j'avais l'opportunité d'avoir un salaire. C'était 8 000 francs à l'époque que j'avais. C'était le droit du pétrole. Et puis, donc, à un moment donné, il m'a dit, bon, écoute, il faut que tu ailles à la préfecture pour changer de statut. Je ne sais pas ce que c'était. Donc, j'y vais à la préfecture. Et je demande au mec au guichet, je vais changer. Il dit, mais attends, oh, c'est pas comme ça ici. C'est pas possible. Je dis, ah bon, pourquoi? Et là, il me sort un document sur lequel il est écrit que nos pays, moi je viens de Côte d'Ivoire, nos chefs d'État, enfin Fouboigny à l'époque, pour ne pas le nommer, il avait signé un accord, on va dire ça comme ça, pour l'ivoirisation des cadres. C'est-à-dire qu'il fallait que les étudiants qui venaient ici puissent rentrer automatiquement, remplacer les coopérants qui étaient là-bas. Mais moi, je n'étais pas boursier, c'est mes parents qui m'ont envoyé. Alors, grosse difficulté. Il m'a dit non, ce n'est pas possible. Donc, je n'aurais pas à voir mon patron à l'époque. Il dit, voilà, situation. Je dis, bon, reste tranquille, ne fais pas de conneries. Je dis, mais si je parle d'inscription à la fac, ça va être chaud. Il dit, calme-toi, on va gérer. Et puis, finalement, ça s'est géré. Et puis, j'ai pu avoir mes papiers à cette époque, comme ça. Voilà. Donc, c'est pour répondre à la fois à la question de la difficulté qu'on a quand on est étudiant, quand on arrive ici. C'est probablement la même chose encore aujourd'hui, je ne sais pas. Et pour répondre aussi, je rebondis sur la question et puis je passerai la parole après à Johannes. Quel conseil donner ? Nous autres, quand on est arrivés, on avait pour seul interlocuteur la chambre de commerce. En tout cas, moi, à mon époque, c'était ça. Donc, tu vas à la chambre de commerce et tu as des classeurs dans lesquels sont référencés toutes les entreprises. Et tu prends conseil, tu appelles, tu dis voilà, je m'appelle un tel, tu prends rendez-vous, et puis quasiment tu les harcèles en fait. Et jusqu'à ce que tu puisses rencontrer le décideur qui va te donner des conseils s'il en a envie, et tu prends ce que tu apprends. Et ainsi de suite, ça te permet de construire toi ton projet dans son ensemble. C'est ce que nous, à notre époque, mais non, ça a sans doute changé. Mais c'était comme ça que nous, on l'a vécu. Et c'est pour ça qu'à cette époque, quand je finis mes études d'ingénieur, il était question de lancer la start-up avec mon ami et moi. Et puis bon, c'était pas évident. On voulait faire making of. Puis bon, avant, ceux qui avaient l'argent, ils venaient. C'était des cérémonies organisées dans des hôtels. Ils viennent, tu présentes ton truc, ils sont là, ils t'écoutent. Bon, ça ne coûte pas grand-chose. Ils mettent un peu. Et puis, après, ils récupèrent leurs sous. Voilà. Mais c'était au moins 2-3 ans sans que tu aies un salaire. Mais ton projet doit être bien construit pour que tu puisses bénéficier de leur soutien.
Déjà, par rapport au conseil qu'on puisse entendre personnellement, ça fait 5 ans que j'entreprends et la première des choses que je puisse te dire, c'est y croire. Je pense que c'est ce qui nous définit tous ici, en tant qu'entrepreneur, c'est croire fermement en ce qu'on fait. Parce que personne d'autre ne le fera à ta place, mais vraiment. Surtout, autre chose, c'est connaître le pourquoi, comme je le disais tantôt. Le pourquoi, c'est pourquoi tu te réveilles le matin, pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi moi, je fais ce que je fais? Parce que j'adore la musique, je suis un passionné de musique. Donc, je prends complètement mon pied chaque jour à faire ce que je fais, à travailler avec des artistes qui ont du talent, qui nous proposent donc de la musique et tout. Et surtout, j'aime beaucoup une chose, c'est je veux avoir beaucoup d'argent. Je m'en cache pas, parce que je sais qu'en France, c'est tabou de parler d'argent. C'est tellement tabou de parler d'argent, surtout en cette période-ci. Mais je le dis, moi, je veux être immensément riche. Je m'en cache pas. Et donc, je le fais aussi pour ça. Mais on ne vient pas à l'entrepreneuriat pour s'enrichir tout de suite. Parce que si je peux te dire, en toute franchise, ça fait 3 ans que je travaille sur WIM. Je ne me suis pas payé un seul franc, un seul euro en 3 ans. Et là, j'ai embauché des personnes. J'embauche des personnes, je les paye. Mais moi, je ne perçois toujours rien. Tu vois ce que je dis ou pas? Donc, c'est pour te dire en fait que c'est tout à fait difficile, mais il faut y croire. Deuxième chose, c'est accepter l'idée que l'échec, ça fait partie du processus. Ça fait partie intégrante du processus. On échoue tous les jours, jusqu'à en dire autant. Tu lances un produit, tu penses que ça va cartonner tout de suite, et là, c'est la grosse claque. Et tu te poses la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Des doutes viennent. Mais c'est normal, mais ça fait partie du processus, l'échec. Et c'est inévitable. Et pour répondre à la question de l'accompagnement et du réseau, aujourd'hui, nous, on a eu quand même pas mal de réseaux en faisant différentes formations, en allant à différents colloques et en côtoyant des personnes qui ont déjà aussi pu entreprendre. Donc, le premier des conseils que je puisse donner en accompagnement, c'est de te rapprocher en fonction du projet que tu portes. Si c'est un projet tech, je te conseille de faire, par exemple, des formations comme le disait Giscard tout à l'heure, les déterminés. Nous, on l'a fait, les déterminés. Ils ont un réseau national qui te permet de te challenger sur ton projet, sur ta posture d'entrepreneur et surtout de pouvoir, en fait, avoir du réseau aussi pour aller chercher du financement. C'est pas eux qui financent, mais quand même, ils te donneront les conseils nécessaires pour aller voir les bonnes personnes afin de chercher du financement. Donc, il y a les déterminés. Si tu as un projet, par exemple, assez local, il y a la Chambre de commerce et de l'industrie. Il y a aussi des réseaux comme la BGE. voilà, qui est juste à côté. Donc il y a vraiment aujourd'hui pas mal de structures qui accompagnent des idées d'entreprise et surtout dans la tech de plus en plus avec avec BPI, la French Tech et autres. Nous, on est lauréat French Tech, comme il le disait tout à l'heure. Donc, il y a vraiment aujourd'hui beaucoup plus de structures qui t'accompagnent. Mais l'important, c'est de pouvoir te dire, en fait, je vais à cette formation-là, pourquoi ? Et donc, sélectionner la bonne formation pour ce que tu veux faire et donc te lancer. Mais ne te dis pas aussi, parce que quand tu as parlé tout à l'heure, tu parlais du facteur argent. C'est vrai qu'il faut quand même un minimum soi-même pour se lancer dans ce qu'on fait. Mais il ne faut pas que ce soit le blocage parce que beaucoup trop d'idées meurent à cause du manque de financement. Et ça, c'est dommage. Voilà. Merci. Oui, c'est, en fait, on a sur notre application, on propose en fait ce qu'on appelle le freemium, qui te permet de tester l'application, de tester des morceaux que vous avez dans l'application, voir un peu comment ça marche le concept. Et ensuite, si vous voulez découvrir un peu plus le catalogue que nous proposons, on a des abonnements en premium au mois, au trimestre, au semestre et même à l'année. Donc, en fonction de ce que vous voulez, en fait, vous pouvez justement prendre un abonnement pour avoir accès à tout le catalogue qu'on propose de musique dans toutes les matières. Donc voilà un peu ce qu'on propose aujourd'hui.
Il y a des réglementations et celle dont vous parlez, c'est la RGPD, ça s'appelle. En gros, on a une manière d'opérer qui est réglementée. On ne peut pas, par exemple, comme ce que je vous disais tout à l'heure, on va recueillir les données de tout le monde. On ne peut pas les vendre, on ne peut pas les diffuser. On n'a pas le droit sans votre autorisation. Et chez nous, de toute façon, le but, ce n'est pas les données. Donc on respecte la RGPD concernant cette partie-là. Et ensuite, au niveau sécurisation, toute personne qui va créer une activité professionnelle est obligée de s'assurer. C'est une obligation légale. On est obligé d'avoir une assurance responsabilité professionnelle, une RC Pro, responsabilité civile professionnelle, qui est une obligation. Donc c'est pas possible de créer une entreprise. En tout cas, si on est dans les règles, on ne peut pas créer une entreprise et ne pas pouvoir fournir le certificat d'assurance aux utilisateurs si toutefois il est demandé. Donc on est assuré. On est assuré sur notre activité et du coup on a une assurance supplémentaire pour protéger, couvrir les biens sur les dommages possibles que vous avez cités là. C'est aussi une obligation. On est partout en Afrique. Pour la simple et bonne raison, en fait, c'est les aéroports qui sont référencés. Vous allez dire, moi je pars d'ici et je descends à Cotonou. Je pars d'ici, je descends à Brazzaville et c'est le modèle que disait Madeleine tout à l'heure qui imposerait d'avoir des kiosques dans chacun des pays. Mais par rapport au fait qu'on passe par les voyageurs, la limite c'est là où les gens veulent aller. Donc partout où vous êtes susceptible d'aller, Colijet peut être une alternative.
Bien. Y a-t-il une autre question ? Sinon, on va poursuivre le déroulé. Hein. Moi, j'allais m'adresser à nos invités de ce jour. Le cadre familial, comment cela s'est fait ? Comment ils ont supporté ? Vous ont-ils accompagné ? Voilà, ont-ils supporté que vous travailliez jusqu'à 14h du matin ? Enfin, bon, voilà, c'est bien de savoir un peu comment ça s'est passé.
Alors, c'est pour moi, en tout cas, compliqué. Et facile à la fois parce que je suis papa solo. Du coup, j'ai pas une compagne qui va me dire non mais tu. Donc ça ça a été facile puisqu'il n'y avait personne. Par contre, avec les enfants, ça demande une organisation militaire. On est tous, les parents que nous sommes aujourd'hui, on est très exigeants avec nos enfants, mais il faut qu'on soit vigilant. À ce qu'ils suivent le chemin que l'on souhaite pour eux. Arrivé à un moment, ils prendront leur décision, mais pour l'instant, c'est moi qui décide. Mais pour ça, il faut aussi assumer le poids de la présence. On a la chance d'avoir des téléphones aujourd'hui et du coup, on peut assurer le suivi. Donc moi, mes enfants ont adhéré tout de suite. Ils ont été même plus aguerris que moi sur la création. C'est ma fille, hein, le logo de Colijet, c'est ma fille qui l'a créé, la plus grande, l'aînée. Et donc, moi, j'ai donc pas eu de réels problèmes de ce point de vue-là, si ce n'est le fait d'être vigilant, de m'imposer du temps aussi pour eux, pour pouvoir suivre leur évolution. L'autre volet, c'est celui, par contre, de la famille au pays. Mon père est retraité, il a passé 80 ans, il est au pays. Et quand j'ai commencé, je ne lui avais pas dit. Je ne lui en ai pas parlé, avant un moment, quand j'ai créé. Et il l'a su, parce que j'ai eu un passage BFM TV. Et en Guinée-Bissau, ils suivent beaucoup Canal+, et il y a via Canal+, le câble, et il y a BFM. Et donc sur BFM, en chemise, cravate, aujourd'hui, tout le monde croit que je suis un grand patron qui gagne des millions. Alors j'espère qu'ils vont me permettre d'y arriver, mais ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, je suis comme Jeunesse. Jusqu'alors, je ne me suis versé aucun salaire. Les investisseurs dont parlait Jérémy tout à l'heure détestent ça. Après, c'est une autre mentalité. Nous autres Africains, on est plutôt économes. On va se dire, voilà, on se paye, on laisse tout l'argent dans l'entreprise pour lui permettre de croître. Mais donc, oui, la famille au pays pense qu'aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup d'argent. Et il y a des demandes un petit peu farfelues, des fois, qui arrivent. Mais après, voilà, moi, je pense que c'est la force des choses. Je sais pas, je pense que si j'étais à leur place, j'aurais peut-être réagi de la même façon. Donc je le prends avec philosophie et je leur explique juste que non, pour le moment c'est pas possible, mais c'est pas un non définitif, mais il va falloir patienter encore un peu.
D'accord. Bon, alors Mohamed, les difficultés, en fait, comment la famille a pu t'accompagner, t'assister dans cette période d'intégration à Montpellier, puis de création, etc. Comment c'est facile? La famille, je veux dire.
La famille.
Oui, la famille.
En tout cas, je ne suis pas marié là. Et c'est un peu, mais c'est juste que. Bon, bref, moi, je suis presque comme mes amis là. Et j'arrive, je paye moi-même, mais ce n'est pas beaucoup. Ça fait le mois.
D'accord.
Voilà. Et du coup, c'est la seule chose qui me fait trop peur parce que les déclarations ORSAF. Parce qu'il faut chaque mois, franchement. J'ai installé, j'ai fait un an, j'ai payé 13 000 euros à ORSAF. Ouais. Et là, j'ai fini l'histoire de ORSAF et je suis passé à une entreprise individuelle. Parce que l'endroit, j'ai embauché quelqu'un. Et là, j'ai un apprenti, je suis plus, parce que là, deux fois, je ne dors pas. C'est vrai, oui, des fois, je ne dors pas. Parce qu'il faut, en fin de mois, le comptable, il veut dire, je sais pas, presque 200 euros. Et le TVA, et le local, et tout ça. Et deux fois le mois, le travail, il fait comme ça. Il doit 10 ans, deux fois. Quel 10 ans, même, j'arrive pas à payer, même moi-même aussi. Mais j'arrive, j'ai marche, et c'est comme ça, mais. Quand même, j'ai payé 13 000 euros. Pour moi, c'est trop. Je vois que je gère, mais quand même, à sortir de quelque chose, je suis content comme je suis arrivé en France.
Ouais.
Et ça fait 12 ans ou 3 ans avant que j'ai fait mon projet. J'ai les aides de la cave, de la barquette, tout ça. C'est le gens qui, comme tout le monde, qui travaille, qui paye pour nous, les sécurités sociales. Et quand même, ça fait trop plaisir que je rembourse les autres aussi. Sympa. Et voilà. Mais quand même, j'ai pas peur, je fais confiance en moi-même toujours.
D'accord. Voilà. Bon, ben c'est bien. Tu as répondu à la question ou pas encore?
Alors, pour répondre à la question du point de vue familial, c'est compliqué. Comme jusqu'à, je n'ai rien dit. Ouais, c'est ça, parce que on a, c'est vrai, et j'en suis très heureux, j'en suis très fier d'ailleurs, qu'on ait aujourd'hui une génération de jeunes Africains qui ont compris que l'entrepreneuriat, il faut l'assumer. C'était pas le cas de nos parents, c'était plus des bureaucrates. Et donc la vision de l'entrepreneuriat pour eux, c'était pas la voie la plus idéale. Donc forcément. Je suis quelqu'un, j'aime pas du tout la négativité. C'est mes parents, je les adore, c'est mes frères, c'est tout ça, mais je n'en parle pas, tout simplement parce que je ne suis pas dans cette énergie de et si ça ne marche pas, et si ça, est-ce que. Et ils savent que il y a pas longtemps, mon père, il a appris que j'entreprenais. Donc, il m'a posé la question. Il me disait, mais tu es sûr ce que tu fais et tout? Est-ce que tu ne voudrais pas te payer une assurance, c'est-à-dire une sécurité d'emploi et tout? Tu as un master, tu as fait ci, tu as fait ça. En estimation, tu peux gagner ça et tout. Et en fait, ça m'a fait interroger sur le. Mais si lui, il avait pris le risque qu'il fallait prendre, parce qu'il a essayé d'entreprendre aussi. Et c'est là aussi, des fois, les parents projettent des fois les peurs qui sont les leurs, sur nous. S'il avait pris le temps d'oser un peu plus, je pense que il aurait beaucoup plus qu'attendu. Donc je lui ai dit, mais je lui ai fait un peu le parallèle en disant, mais sans vouloir lui manquer de respect, parce que je sais qu'une bonne tâte, ça peut venir très vite. Parce que, mais je lui ai fait un peu le parallèle en disant, mais s'il avait fait ça dans son setup qu'il avait lancé à l'époque, s'il avait pris un peu plus de temps, ben sans doute, c'est un secteur aujourd'hui qui est très florissant, c'était l'import et l'export, et qu'il aurait sans doute eu un peu plus de succès et tout ça. Et ça l'a calmé un peu, mais je sais que ces interrogations, ça vient tout le temps de est-ce qu'il a fait le bon choix, est-ce que. Et l'autre aussi question, c'est, vous savez, on est là aujourd'hui, ou du moins je suis là aujourd'hui, ça m'interroge aussi de... Moi, je l'assume complètement, mais ça m'interroge de... tu n'as pas cette stabilité financière, tu embauches des gens, tu les payes, machin, tout ça, mais toi-même, tu n'as pas encore cette stabilité financière en soi, et je l'assume complètement. Mais l'autre question qui vient souvent, c'est comment je fais pour assurer auprès d'eux, c'est-à-dire être le modèle... que je dois être pour mes frères, mes amis et autres. Et cette question, quand tu te la poses, tu n'as pas forcément de réponse là tout de suite parce que tu n'as pas encore atteint le niveau d'exigence que tu veux. Donc, il y a toutes les interrogations qui viennent souvent. Mais du point de vue vie personnelle, ça va. Personnellement, ça va. Et ceux qui m'entourent, c'est d'ailleurs pour ça que je m'entoure que des personnes qui ont une vision de l'entrepreneuriat assez banale en soi, pour ne pas en fait m'entourer de personnes qui sont toujours en interrogation du comment, du pourquoi. Et ça me permet de lâcher prise et d'avoir en fait un entourage qui sait me conseiller, qui sait pourquoi je fais ce que je fais. Donc l'entourage, c'est aussi important. Je profite pour l'aborder parce que quand on entreprend, la question de l'entourage, c'est tellement important que si tu ne t'entoures pas des bonnes personnes, tout de suite, c'est le flop. Parce que autant tu te lances, tu te dis « Ok, j'ai la niaque, machin et tout ça, je vais cartonner dans ce que je fais ou du moins je vais tout donner pour cartonner. » Autant si tu n'as pas le bon entourage, mais ce sont ces mêmes personnes qui vont te tirer vers le bas et vont te dire « Écoute, ton idée, il est bien et tout, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas fait ça. » Et tu finis par abandonner. Donc l'entourage, c'est très très important, l'environnement dans lequel on est. Et c'est d'ailleurs pour ça que, même si j'adore mes parents et tout ça, je ne parle pas beaucoup d'entrepreneuriat avec eux. Je préfère parler d'autre chose que de parler d'entrepreneuriat. Sinon, ma peur, c'est qu'ils projettent leur peur sur moi. Et ça, c'est le commun de toute personne, hein, de tout entrepreneur. Je pense que jusqu'à me dirait la même chose parce que Mohamed. Donc, pour moi, il n'est pas question d'aborder la question de l'entrepreneuriat avec eux, en tout cas pas assez régulièrement, de temps à autre. Ils me voient passer dans tel média, dans telle chose, et ils se font leur idée, c'est sans plus. Mais peut-être que je leur ferai une masterclass sur l'entrepreneuriat un de ces jours quand j'aurai le succès que je veux.
signataire là-haut.